Voilà, Game Radio fait la musique ce soir. Flip Flop doit être avec nous, normalement. Je vais tout simplement l'inviter à rejoindre ma session. On a des petits soucis, on n'a pas du tout pu préparer ça. Pour tout vous dire, je crois qu'il vient d'arriver chez lui. Il travaillait toute la journée, il a pris le train, et il débarque à peine. Donc on improvise totalement cette rencontre avec Flip Flop, qui, je le rappelle, donc un musicien 8 bits. Je vais essayer de le recontacter tout de suite. Alors 8 bits, bien entendu, ça veut pas dire qu'il est bien équipé, ça veut dire simplement qu'il fait de la musique avec des vieilles consoles. Flip Flop, es-tu là ?
Oui.
Oui, salut, comment vas-tu ?
Ça va bien, et toi ?
Ça va. Alors, j'ai l'impression que t'as mis un vocodeur sur ta voix.
Exactement. Voilà, là, je l'ai enlevé.
Ah d'accord, oh là là, jusqu'au bout, ok, très bien.
Ouais, écoute, on fait ça bien.
Ouais, bah, bienvenue sur Game Radio, on est ravis de te recevoir.
Merci pour l'invitation.
Voilà.
Le son, il est correct ?
Il est très bien, parfait. Invitation de dernière minute, merci d'être venu, je t'ai contacté ce matin même, je crois, par mail.
Absolument.
On ne se connaît pas du tout, c'est vraiment une première rencontre entre nous. Je t'ai contacté parce que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de recherches justement sur la musique 8 bits, la chiptune. Enfin, tu veux nous en dire un peu plus parce que pour moi, c'est encore un petit peu flou. Et je suis tombé sur ton site. Donc, Flip Flop, je t'ai découvert comme ça. Je t'ai contacté un peu comme ça au feeling et puis t'as accepté très gentiment de participer à cette émission ce soir, totalement improvisée pour la fête de la musique sur Game Radio. Première question, si tu veux bien,
oui.
tu peux reprendre ta voix de robot hein, si tu veux.
Non, je ferai ça tout à l'heure pour le live pour rigoler.
Ok, d'accord. Alors, oui, justement.
Les gens puissent m'entendre correctement.
Voilà, en plus, tu vas nous faire le plaisir de nous faire un petit live, ça c'est vraiment sympa. Live ou démo, comment on appelle ça ? Vraiment un live ?
Disons que on peut appeler ça une démo pour ce soir parce qu'il n'y a pas des gens devant moi, il n'y a pas un public.
Voilà,
mais ça équivaut à un vrai live.
Alors, Flip Flop, petit détail amusant, moi c'est Gus, je m'appelle Guillaume en fait, comme toi.
Voilà, moi aussi. Salut
voilà,
Guillaume.
Donc, salut Guillaume, comment vas-tu ? Alors, on va parler tout simplement de la chiptune. Alors, je sais pas exactement comment on dit le chiptune, la chiptune, la musique 8 bits. Explique-nous un petit peu tous ces termes-là qui peuvent être confus pour la plupart des gens qui nous écoutent.
Donc, effectivement, il y a pas mal de vocabulaire. Donc, si on parle de la chiptune en général, donc ça regroupe la musique électronique faite avec des appareils obsolètes. Donc, on va dire que ça a commencé.
Alors, je te coupe. Mais... excuse-moi, quand tu dis appareils obsolètes, c'est pas forcément des consoles de jeux.
Non, ça peut être des vieux ordinateurs tels Atari, Amiga, Amstrad, etc. Donc, tout appareil électronique qui possède un sound chip, c'est-à-dire un processeur sonore. Capable de synthétiser du son.
Ok, d'accord.
Voilà, et donc ce type de musique a apparu avec des vieilles machines de ce type-là, notamment dans la scène des cracktro. Donc à l'époque, il y avait des crackers, on va dire, qui pirataient des jeux, etc. Puis au bout d'un moment, pirater des jeux, c'était plus assez marrant, ça devenait trop facile. Donc du coup, ils se sont lancés dans le challenge de faire un crack assez distrayant, visuel. Donc ils ont commencé à rajouter un peu de 3D, etc. Puis à rajouter de la musique.
Alors moi, si je me souviens bien,
la chiptune.
Effectivement, sur mon Atari ST, quand j'étais plus jeune, les petites disquettes qu'on s'échangeait dans la cour du collège, en général, en début, quand on lançait la disquette, il y avait toujours une petite démo musical avec deux trois trucs qui bougeaient à l'écran et des musiques qui vraiment m'ont marqué à l'époque. J'adorais ça et très électronique effectivement. Petite question, j'ai écouté pas mal de chiptune ces derniers temps. C'est vrai que on reste quand même très ciblé musique limite techno électro. C'est un peu le cas.
Donc oui, bah c'est assez sympa avec ce type de matériel de faire de la musique techno, mais on peut tomber sur tout type de musique, et notamment il y a pas mal d'artistes qui font des reprises de classiques, de grands classiques, comme je pense à Sida Beatball qui a repris pas mal de Georges Brassens. Donc on m'excusera, mais c'est pas de la techno.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, les possibilités sont assez, je vais pas dire infinies, mais sont assez grandes. Donc après, c'est suivant l'inspiration de chacun et les goûts de chaque artiste.
Ok, alors la 8 bits, toi tu te définis comme étant un musicien 8 bits. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu te limites, enfin, tu te limites pas, mais enfin, tu t'orientes vers des machines qui ont cette limitation 8 bits, en gros, c'est ça ?
Grosso modo, c'est ça. Alors, quand on parle de 8 bits, donc bon, on parle de musique 8 bits, ou plus principalement de micro-musique, donc on en revient à tout à l'heure, c'est la musique faite avec des vieux processeurs sonores. Et donc, moi, je me limite, entre guillemets, j'utilise des Game Boy actuellement. qui a un sound chip 8 bits, d'où cette sonorité, ce grain sonore là, et voilà.
Ok, alors on va peut-être parler justement de ces Game Boy. Comment est-ce qu'on fait de la musique avec une Game Boy? Je crois savoir qu'il y a des logiciels qu'on appelle des trackers, si je me trompe pas.
Voilà, c'est ça. Ben ouais. Les trackers, pareil, ça vient des ordinateurs comme l'Atari. Donc il y a principalement sur Game Boy deux logiciels. Donc il y a un tracker qui s'appelle LSDJ, qui est programmé par un Suédois, si je me trompe pas, du nom de Johan, le nom de famille, je ne me souviens plus.
Alors un tracker qu'on peut télécharger contre un don, on fait une donation, minimum de 2 euros je crois, et on peut récupérer le programme qu'on peut ensuite utiliser soit dans un émulateur Game Boy, soit en le copiant sur une cartouche vierge, Game Boy vierge. Je crois que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Ça paraît très simple au départ.
Oui, voilà, tout à fait. Donc effectivement, le programme est en donation à 2 $, donc c'est quasiment gratuit. Ensuite, effectivement, on peut l'utiliser en émulateur, donc sans investir dans le matériel. Mais on va se rendre compte que c'est vite fastidieux de faire ça au PC. Donc du coup, on peut acheter une cartouche vierge reprogrammable pour la modique somme de 35 €, sur lequel, en plus, il y a maintenant la version USB qui sont sorties. Donc sur lequel, via câble USB, on peut transférer LSDJ. Et une fois qu'on a ça, on prend une vieille Game Boy à 5 € au puce et c'est parti, on peut faire de la musique.
Voilà, donc pour 7 €, vous pouvez vous lancer là-dedans. On a l'impression que c'est très simple, mais je vous promets qu'une fois qu'on a le logiciel sous les yeux et qu'il faut s'y mettre, même quand on est un petit peu habitué aux séquenceurs et autres logiciels de musique, je vous promets qu'il y a une prise en main. Le logiciel est pas simple, quoi. En plus, on a quoi, 3-4 boutons, plus la croix multidirectionnelle. Sur Game Boy, en tout cas, c'est un truc de fou. Moi j'ai essayé, c'est vrai que je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire des morceaux avec ça? Est-ce que c'est vraiment fastidieux? Alors, ou est-ce qu'avec le temps on finit par apprivoiser le truc, la machine? Et je crois qu'il y a même un mode, alors il y a deux modes, il y a le mode où on peut composer, et il y a le mode où on peut jouer live.
Voilà, donc en fait fastidieux non, je dirais plutôt amusant, après bon chacun ses goûts. Donc sinon quand on allume le logiciel pour la première fois, effectivement l'interface peut paraître un peu fouillie, mais c'est pour ça qu'il faut lire le manuel. Mais la prise en main...
Manuel, alors je te coupe à nouveau, je me permets. Hein. Oui, Manuel qui vient d'être traduit en français, je crois.
Oui,
assez récemment.
Par moi-même.
Ah, c'est toi le traducteur, d'accord.
Oui.
Bah, c'est peut-être comme ça que je suis arrivé jusqu'à toi, en fait. Je cherchais une traduction, je suis tombé dessus, d'accord, ok, très bien. Bravo,
voilà,
félicitations.
Donc, le manuel de LSDJ a été traduit, je crois, en septembre 2009. Je sais plus, il faudra...
C'est récent,
Ouais, c'est assez récent, enfin, ça a moins de 6 mois. Il fait 64 pages, donc c'est un travail assez conséquent, mais bon, c'était intéressant de le faire. J'ai appris pas mal de trucs et du coup, j'ai découvert plein de fonctionnalités du logiciel. Donc pour les futurs chiptuners, allez directement sur mon site www.flipflop.fr pour avoir le manuel en français. C'est quand même beaucoup plus simple.
C'est clair. Alors, tu parlais des futurs... comment tu disais
Je disais chiptuner.
Chiptuner.
Ouais, comme la musique chiptune, mais bon, enfin, c'est du franglais.
Moi, ce que j'ai trouvé super dans cette communauté, c'est que vous n'êtes pas du tout fermé. Vous n'êtes pas du style à vous dire, voilà, moi, je fais de la musique chiptune, j'ai pas envie que les autres en fassent. Au contraire, il y a une vraie communauté. On a vraiment un sentiment d'échange assez fort, que ce soit sur les forums, les gens s'entraident assez facilement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette communauté de chiptuneurs, de personnes qui s'intéressent, que ce soit les musiciens? Et puis ceux qui écoutent cette musique, qui viennent au concert, parce qu'on va le voir, il y a aussi des concerts, il y a des scènes.
Oui, tout à fait.
Parle-nous un petit peu de cet univers, des gens qui gravitent autour de tout ça.
Ben, les gens qui gravitent autour de tout ça, en France, on n'est pas énorme. Je dirais qu'on est une vingtaine, à la louche. Donc voilà, mais effectivement...
Alors la vingtaine, tu parles d'artistes, c'est les artistes, les musiciens, les compositeurs.
Qui jouent en concert, effectivement. Ouais. Sinon, des personnes qui en font aussi pour eux, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Je suis tombé sur plein de MySpace, de personnes pas connues qui font du très bon son. Donc voilà, sinon effectivement, sur les forums, il y a beaucoup d'échanges. Sinon, bah, comme on n'est pas beaucoup, bah, du coup, on voit toujours les mêmes têtes en concert et au final, on devient potes. Et puis, donc voilà, c'est une famille et aussi on s'échange des techniques de composition, on s'échange nos sauvegardes et on progresse ensemble au final.
D'accord. Le public qui vient au concert, les personnes. Moi, j'ai vu quelques vidéos. Je crois que même il y a une culture. D'où ça vient d'ailleurs? Ça vient du Japon?
Alors la culture, ça vient d'où exactement? Ça, je ne saurais pas le dire.
Ouais.
Par contre, on peut compter un grand nombre de geeks au concert.
Ouais. Ce que j'ai trouvé intéressant dans certaines vidéos que j'ai visionnées, c'est qu'on voit des musiciens chiptunes dans la rue carrément avec un ampli, une Game Boy, faire le show et les gens s'arrêtent, les gens dansent, c'est assez impressionnant. Et est-ce que c'est vraiment ça au départ, un art qui peut se déplacer partout, quelque chose qui permet de communiquer musicalement très vite, facilement?
Ah ben ça c'est clair, parce que si on utilise des Game Boy, ça tient dans la poche, c'est portable, avec 4 piles on peut faire 8 heures de son. un ampli portable, c'est pas bien lourd, ça marche sur pile aussi, et donc on peut se poser dans la rue, à la fête de la musique ou pas, et imposer son bruit aux autres. Et oui, il y a quelques personnes, quelques curieux qui s'arrêtent des fois. Et,
C'est le genre de choses que toi, tu as fait, t'installer dans la rue comme ça ?
En improvisé, très rapidement.
D'accord, ok. Alors moi, je regardais un petit peu sur ton site, j'ai découvert qu'il y avait pas mal d'événements dédiés justement à cette musique-là. Alors t'étais récemment au Retro Gaming Show de Marseille.
Hier et avant-hier, samedi
voilà,
et dimanche.
C'était même très récent. Comment ça s'est passé d'ailleurs ?
Ça s'est passé en fait que je fais partie du Micro Musique Marseille HQ.
D'accord.
Donc HQ comme headquarter, donc il y a pas mal de HQ en France, il y a le Paris, Lyon, Marseille, etc. Donc en faisant partie de ça, ben, on est un peu invité aux événements de temps en temps. Et comme c'est un pote à moi qui s'appelle Archéoptérix qui a organisé l'événement avec l'école Epitech, on a été invité avec les artistes du Micro Musique Marseille HQ à faire des ateliers de circuit bending et de composition musicale sur Game Boy.
D'accord. Beaucoup de monde ?
Oui, étonnamment beaucoup de monde, même des personnes qui venaient d'assez loin. Type Avignon, etc. Ça fait très plaisir. Beaucoup de curieux, des gens qui voulaient progresser, qui connaissaient déjà un peu les logiciels et les DJ. Non, c'était très sympa.
Alors, on parle beaucoup de Sida Beatball. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que cette, c'est pas, on peut pas parler de succès à son niveau encore, mais c'est vrai qu'il a été, il a sorti un album. Est-ce que tu penses, toi, que cette musique a, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais un vrai avenir? Est-ce que tu penses qu'il y a, ou que ça va rester quand même quelque chose de très underground? Quelle est ta vision de tout ça?
Bah, ma vision, alors déjà, premièrement, pour parler de Sida Beatball, donc moi je le classerais plutôt en star international de la chiptune, ou du moins star française de la chiptune, c'est un pilier à ne pas rater. C'est quelqu'un de très fort, c'est lui donc qui a repris Brassens, etc. Il a sorti, si je me trompe pas, 3 albums, et oui, je l'ai déjà vu plein de fois en concert, et je le connais un petit peu, c'est quelqu'un de très gentil.
D'accord. Et donc, sur l'avenir de cette musique... Donc tu parlais de star international en concernant Sida Beatball. Il est plus connu à l'étranger qu'en France, selon toi ?
Je saurais pas dire.
D'accord, ok. Donc pour revenir à cet avenir de cette musique-là, est-ce que tu penses qu'elle va rester plutôt underground, ou est-ce qu'elle va, pourquoi pas, se démocratiser, se populariser ?
Bah, à la base, c'est quelque chose d'underground, mais ça tend à se populariser parce que ça a débuté en 2000-2001 avec la Team Tendo, puis suivi de très près par, je pense, Sida Beatball et Dubmood. Et donc au fur et à mesure, plus de gens écoutent, plus de gens s'y mettent, plus de gens composent, il y a encore plus de concerts, etc., plus d'événements, donc plus de gens sont au courant. Ensuite c'est médiatisé, comme ce soir par exemple, ou à la télé, ou sur YouTube, on trouve des tonnes de vidéos, si on tape chiptune ou quelque chose comme ça, ou micro-musique. Et donc plus ça va, plus c'est connu, donc je pense que la micro-musique a un bel avenir devant elle. Et après, ça restera quand même quelque chose d'un petit peu underground, parce que ben c'est pas du pop rock ou du hip hop de base. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir entendu quelque part ou s'intéresser un petit peu pour déjà en avoir la connaissance.
Okay.
Mais elle pourrait évoluer dans un sens où je pense à Dubmood par exemple, qui a commencé uniquement sur Game Boy, puis là qui a intégré un groupe et donc il est là en plus en accompagnement.
D'accord, ça donc, pourrait devenir
fait,
un instrument à part entière.
Un peu plus populaire,
ouais.
Voilà.
De dire soit un instrument à part entière, soit intégré à des productions plus ambitieuses, entre guillemets bien entendu. Ça peut être un élément, un instrument, une sonorité en plus dans certaines productions. D'accord.
Voilà, ça peut amener un grain très amusant et puis un peu décalé pour des types de musique, on va dire, communs.
Mais puis le rétro gaming à la côte, donc de toute façon, il n'y a pas de raison que la chiptune ne suive pas non plus. Je voulais te demander,
ouais,
je l'ai pas fait avant, j'aurais peut-être dû, parce que ça fait une interview un petit peu dans le désordre. Tu as quel âge ?
J'ai 25 ans.
25 ans, donc t'as connu les Game Boy, toi, quand t'étais tout petit.
J'en ai pas eu personnellement, c'est pour ça que je me déchaîne maintenant dessus.
D'accord, ok, c'est là que je voulais en venir. Juste rapidement, ton parcours musical, avant de te lancer là-dedans, tu as composé sur d'autres formats, informatiques notamment, avant de te lancer là-dedans ?
Informatique, pas trop, parce que je suis informaticien de métier, donc du coup, l'écran, j'en ai un peu marre, donc j'ai envie de, après le travail, j'ai envie de changer de support. Si je fais de la musique, j'ai pas trop envie d'en faire sur ordinateur. Donc les Game Boy, c'est beaucoup plus rigolo. Avant ça, je composais en 100% hardware sur des machines telles les Korg Electribe, EMX, EXX, etc. Et des synthés Korg aussi, micro-Korg.
D'accord. Et est-ce que tu mélanges aujourd'hui ces instruments-là avec ta Game Boy ? Ça t'est arrivé d'essayer des choses un petit peu comme ça ?
J'ai essayé des choses. Il y a une musique... j'ai fait avec un pote où on a mixé une Game Boy, une Nintendo DS et le synthé Korg. La Nintendo DS, c'était pour avoir une rythmique beaucoup plus frappante, beaucoup plus ronde, parce que la Nintendo DS, bah, c'est pas 8 bits, c'est, je sais plus, 16 ou 32, et du coup, bah, le son, c'est presque du son PC. Donc, on avait une très grosse rythmique, puis le synthé pour envoyer des grosses nappes électro. C'était sympa, par contre, je crois pas qu'elle soit sur mon site, mais à l'occasion, je la mettrai. Mais c'était une version bêta. Donc, effectivement, oui, j'ai déjà testé, mais là, actuellement, je n'ai plus ces instruments-là. Donc,
alors,
je pourrais plus expérimenter.
Dernière question avant d'essayer de t'écouter, parce que là aussi, on va improviser ça, on sait pas du tout si on va réussir à faire ce petit live dont on a parlé tout à l'heure. Le son de la Game Boy, c'est clair qu'il est kiffant. Il y a quelque chose qui se dégage, dans les sonorités. Comment ça s'explique, ça, ce grain, l'effet que nous fait, que nous font ces sons-là, parce qu'il y a un vrai effet Game Boy. Comment tu l'expliques?
Ben, l'effet, enfin, le grain, justement, la sonorité, ben, c'est dû complètement au processeur sonore. Parce que, ben, donc, sur Game Boy, on compose, et quand on fait play, c'est le son qui est généré en temps réel par le processeur sonore. Donc, on va pas stocker des samples dans la cartouche, comme sur PC, des gros points wave, etc. Ça tiendra jamais de toute manière.
Et on pense que c'est très limité, alors qu'au contraire, on se rend pas compte, mais on peut énormément travailler les sons. Je sais qu'il y a moyen de jouer sur les filtres. L'enveloppe du son,
on peut énormément travailler les paramètres du son. Par contre, là où il y a une limitation, c'est que le processeur sonore de la Game Boy nous permet uniquement 4 pistes simultanées.
Ah oui, d'accord, c'est léger, donc
c'est la seule limitation.
Ouais. Donc batterie, accompagnement et éventuellement un son ou deux qui pourront servir de son solo, on va dire.
De mélodie. Ben en fait, il y a, pour être précis, il y a donc 4 canaux, il y a 2 canaux pulse et 2 ondes carrées. Un canal qui s'appelle Wave, donc c'est une onde modifiable, donc c'est là qu'on va pouvoir faire les sons les plus bizarroïdes possibles, parce qu'on peut dessiner son onde, et un canal Noise, pour faire, c'est un canal de bruit blanc, pour faire des charlets, si le tch-tch, donc okay. Pour faire un accompagnement batterie.
Alors là, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est peut-être un tout petit peu technique, peut-être un petit peu un jargon de musicien, mais de temps en temps, hein, puis c'est la fête de la musique, donc on parle musique. Très bien, alors je pense qu'on va passer à ce petit concert, à ce petit live dont tu nous as parlé, dont tu nous fais l'honneur sur Game Radio. En tout cas, je te remercie, c'est un truc pas simple. Je sais pas du tout comment on va faire. Je pense qu'on va se quitter. Je te propose, si t'as tout simplement, j'imagine, un mini...
Non, mais j'ai branché de façon à ce que le micro et les Game Boy soient au même endroit. Donc,
d'accord.
Je devrais allumer la Game Boy, on devrait avoir les deux en même temps.
D'accord.
Par contre, je tenais à faire une petite précision.
Ouais.
Depuis tout à l'heure, on parle de LSDJ sur Game Boy, mais il faut savoir qu'il y a deux logiciels phares sur Game Boy, donc LSDJ et Nanoloop.
Okay.
Donc LSDJ, c'est effectivement un tracker style les logiciels sur Atari, etc. Mais Nanoloop a une interface beaucoup plus abstraite, c'est quelque chose de totalement nouveau. Donc c'est un logiciel qui permet d'exploiter le processeur sonore de la Game Boy, donc au final, on aura à peu près le même son. Par contre, l'approche musicale et la méthode de composition est totalement différente.
Et on s'adapte assez bien quand même à Nanoloop, qui est plus récent, je crois.
Oui, je crois qu'il est plus récent. On s'adapte, ben, ça dépend. Si on a déjà fait du tracker, on aura plus de facilité sur LSDJ. Donc, grosso modo, sur LSDJ, on va poser des notes de ré mi fa sol. Tandis que sur Nanoloop, on voit ça plus comme un jeu vidéo. On a à l'écran des petits carrés, et dans ces carrés, on fait bouger des petits carrés, et du coup, c'est à l'oreille qu'on ajuste nos notes.
D'accord.
Donc, à la limite, on n'a pas besoin de notion de solfège avec Nanoloop.
D'accord.
Donc, avec LSDJ, c'est préférable.
Ouais, beaucoup plus abstrait. Très bien. Donc là, qu'est-ce que tu vas utiliser ce soir?
Alors, ce soir, je vais utiliser LSDJ, sur deux Game Boy.
D'accord. Alors, je crois que les Game Boy, on peut les synchroniser, si je me trompe pas.
Oui, tout à fait.
C'est le cas, là, ce soir?
Synchroniser deux Game Boy. Non, c'est juste pour faire des transitions un peu propres.
D'accord.
Mais là, ce soir, il y aura pas de morceaux à deux Game Boy, donc ça sera uniquement 4 pistes en même temps. Et écoutez bien les capacités, les possibilités de 4 pistes, c'est assez marrant.
D'accord. Et alors, avant que tu commences,
oui.
Là, t'es donc sur le format live de LSDJ, on est d'accord? Tu vas donc pouvoir.
Je peux switcher du format normal,
voilà,
au format live sans couper la musique, en fait.
D'accord, donc, très bien. Alors,
en format normal, je peux faire dérouler la musique et puis attendre, et si elle est séquencée correctement, ça passe. Et aussi rajouter des petits breaks, faire des mute, etc., faire des petits rewind, ou passer en mode live et complètement déstructurer mon morceau en live, justement.
Ok, alors
un peu des deux.
Juste pour que je le sache, combien de temps ça va durer, à peu près, selon toi?
Ben, combien de temps on a?
Le temps que tu veux. Peut-être une demi-heure, par exemple.
Je commence par deux chansons que j'enchaînerai. Il y aura peut-être une coupure d'une seconde ou un petit fade out entre les deux. Je m'arrête, on reprend le micro et on voit.
D'accord, ok, ça marche, très bien.
Je vais lancer 10 secondes de chanson, je reprends le micro, et tu me dis si on entend bien et si ça sature pas déjà. On va commencer.
D'accord, ok, alors on va faire quelques tests avant de lancer ça.
Est-ce que tu as entendu le...
J'ai entendu, ouais, ça fait plaisir. Ouais. Je pense okay. que tu peux y aller, très bien. On t'écoute, alors c'est Flip Flop sur Game Radio.
Game Radio.
Bravo. Alors pour ceux qui viennent d'Orgeant Game Radio, je rappelle que Flip Flop était en live direct sur Game Radio actuellement, que c'est de la musique qui est faite à partir d'une Game Boy ou deux, voilà, avec un tracker à l'intérieur. Donc félicitations, excellent, très kiffant, super, merci beaucoup.
Merci à toi. Il y a encore des auditeurs ou tout le monde a
décroché ? Non, il y a encore du monde, vraiment bravo. Que dire, je sais pas, j'ai presque envie de te demander de continuer.
Je peux en trouver une autre.
Voilà, une petite dernière. Juste avant, on va se quitter peut-être justement sur un dernier morceau. Merci aux personnes qui sont venues partager cette fête de la musique sur Game Radio avec moi, avec nous, ce soir. Merci beaucoup. Demain, normalement, il y aura un podcast en ligne, en tout cas un article avec les différents moments de cette soirée. Que ce soit le petit mix que j'ai fait tout à l'heure, le direct que vient de faire Flip Flop. Et puis cette petite interview improvisée avec lui. Donc demain, revenez sur Game Radio pour écouter tout ça, revivre ces moments avec nous. Flip Flop, je te propose qu'on se quitte sur un de tes morceaux pour terminer en beauté cette fête de la musique du 21 juin. Merci beaucoup d'être venu comme ça, de manière totalement improvisée, impromptue et un peu au dernier moment me rejoindre sur Game Radio. Merci beaucoup.
Merci à toi pour l'invitation.
Eh bien de rien, j'espère que tu auras l'occasion de revenir nous voir. Je pense que c'est à refaire ça justement, des petits lives sur Game Radio, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être un rendez-vous mensuel même. Tiens, c'est à voir, on va y penser, on va y réfléchir. À très bientôt, ciao tout le monde. On se quitte avec Flip Flop. Comment s'appelle le morceau que tu vas nous interpréter ?
Le morceau que je vais vous interpréter est un peu nouveau, dans un style un peu plus violent. Il s'appelle Bump.
B-U-M-P. Ok, on se quitte avec
un inédit.
Un inédit de Flip Flop, Bump. À très bientôt, ciao. À bientôt sur Game Radio.
Avant de vous lancer le morceau, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait un petit peu de vocodeur tout à l'heure pendant le morceau. Je citais des pseudos d'artistes micro-musique que j'aime beaucoup. Donc je vais les citer là sans vocodeur pour qu'ils se reconnaissent un petit peu. Je vais faire rapide, il y en a pas mal. Donc je passe un petit coucou à tous les micro-musiciens français, plus spécialement à J+1, Zombectro, Je deviens DJ en 3 jours, Confipop, Gakona, Beatcrusher, Divague, Dr. Vopnok et Spintronic. Voilà. Et coucou à ma famille qui doit être en train de m'écouter. Et c'est parti pour le morceau. Thank you. Voilà, c'est fini. C'était Flip Flop sur Game Radio. Merci pour l'invite. Bonne fête de la musique à tous. Bye bye.